Triziano, Leo season. Hit me up August 19th. With head, cash apps, or edible arrangement.
Radio G. 101.5 FM.
Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Bienvenue sur Bang Geek Mafia, votre émission Info Culture. Tous les mercredis de 19h à 20h, de 19h à 20h.
Oui, c'est bien l'horaire.
C'est bien l'horaire, c'est bien ça. J'hésitais, je bafouille un petit peu.
Non, il est bien 19h.
Donc, ben voici, voilà, on va commencer cette émission. Je vais dire d'abord bonsoir Anaïs.
Bonsoir Seb.
Et oui, nous sommes tous les deux pour animer l'émission.
Ouais, un duo de choc.
Un duo de choc. On fait coucou à nos camarades qui, pour des raisons variées et diverses, ne peuvent être avec nous, malheureusement.
Mais certains nous ont envoyé leur petite chronique, donc vous les entendrez quand même ce soir.
Oui, on réussira quand même à le faire. Alors moi, je propose de commencer tout de suite par un petit morceau de musique, une spéciale dédicace à Sébastien, une demande aussi en même temps. C'est vrai qu'on a eu la douleur d'apprendre le décès d'un guitariste hors pair, un certain petit monsieur qui s'appelle Van Halen.
Oui.
Et oui, qui aimait bien sauter. Hein, et du coup, on va écouter le morceau le plus célèbre de Van Halen, Jump, dans Bang Geek Mafia.
Sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le point.
Et c'est parti, et c'est tout de suite. Et bien voilà, hein, on a fait un petit saut, hop, on y est carrément là cette fois-ci pour l'émission. Alors on a oublié de vous donner un petit peu le sommaire hein, quand même. De quoi va-t-on parler ce soir ?
Alors on va parler cinéma avec une petite chronique de Pablo sur le film Tenet. Une petite chronique philo sûrement.
Une petite chronique philo nette.
Tout à fait.
Ouais, c'est les jeux de mots pourris, c'est pour moi.
Je te laisse, parce que Romain, je vais peut-être en faire certains mots.
Non, mais j'assume jusqu'au bout.
Il y aura aussi une petite chronique série. Je vais vous parler de la nouvelle série de Ryan Murphy, Ratched, qui est sortie il n'y a pas longtemps.
D'accord.
Et puis, Seb, de la BD sûrement.
Mais de la BD, moi j'ai deux petites BD dans mon panier.
Et puis moi j'en ai deux autres.
Alors donc ça nous fait quatre BD.
C'est ça quand même.
Comme quoi je suis fort en mathématiques quand même.
Et puis on va avoir aussi une petite chronique jeux vidéo envoyée par Héloïse. Et pour finir, si on a le temps, moi j'ai quelques petites une petite revue de presse très très succincte, mais voilà.
Et le tout entrecoupé de bons morceaux de musique, de bonne musique qui nous fait du bien.
Et ben on va passer un bon moment tous ensemble.
Voilà. Donc on va commencer tranquillement. On commence par quoi ? Allez. On avait dit le cinéma.
Le cinéma, c'est un rituel dans l'émission.
C'est un rituel. Allons-y, allons-y, allons-y. Alors, j'ai pas préparé le générique, malheureusement. Pas bien. Donc, je vais pas le faire à la bouche. Hein. Il y en a certains qui le font.
Non, puis j'ai pas emmené ma flûte.
Ah, t'as pas emmené
ta flûte. Non, non, on va pas pouvoir le faire à la flûte non plus.
Ouais, on va faire comme ça. Alors, attends, je vais essayer de trouver quand même un petit générique rapidement. Tac, 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 générique, série. Hop, hop. Je suis là. Non, moi je l'ai pas.
Non, on lance la chronique.
On oublie.
On sera meilleur sur la suite.
Voilà. Alors, de quoi tu vas nous parler au niveau du film ?
Alors, c'est plutôt comment Pablo qui va nous envoyer
sa Pablo,
petite chronique.
Ah, c'est Pablo, c'est sa petite chronique. Oh, bah, j'avais oublié, tout à fait.
Alors, peut-être qu'il y aura son propre petit jingle.
Tout à fait. Eh bien, c'est parti. Creature Shock Radio FM. Eh oui, un petit générique d'abord.
Yo les bandes geeks, ça fait plaisir de vous retrouver en direct d'Angers, en direct de Radio G 101.5. On va continuer notre voyage cérébral à travers la philo. Donc je vous propose soit un conte philosophique, soit une série philo, ou encore un petit ciné philo. Voilà, à vous de choisir, à vous de choisir, à vous de choisir.
Une de ces balles est comme nous et voyage à travers le temps, en marche avant. L'autre va en marche arrière. Vous pouvez les différencier ? Et maintenant ?
Pourquoi ça fait si bizarre ?
Vous ne tirez pas à la balle. Vous la recevez.
Wow. I done went back in my cell, felt like hell. Work, I risked it, patient self. How you living? Know you thrilling off a sentence. How I got my stripes and business back and out in the street. What is wild, let it be. Rage is out, gotta eat. Not a vibe, but a way with the sound. By the way, counting down by the days. C'est qui cet Américain?
Il a l'air sympathique. Je l'ai invité au dîner.
Il a un bon coup de poing pour un diplomate.
Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous.
Tu penses à un moyen ?
Tu vas tiquer. Le problème, ce n'est pas la durée, c'est ressortir en vie.
Tenet, Christopher Nolan, 2020. Le temps est-il réversible ? Depuis longtemps, nous nous interrogeons sur le temps, sa définition,
ses caractéristiques et son essence. Une image connue de l'Antiquité est la flèche du temps. Une de ses caractéristiques essentielles, évidentes, est l'irréversibilité. Le temps avance dans une direction. Il peut être linéaire ou cyclique, mais ne revient pas en arrière. Et si cette évidence n'en était pas une? Si le temps pouvait s'inverser? Nous demande Christopher Nolan dans le film. L'inversion du temps est très difficile à rationaliser. Elle avait déjà été abordée dans le Marvel Doctor Strange. Nolan, dont l'obsession tourne autour du temps, qu'il explore et nous demande d'explorer avec lui à travers son cinéma. Que ce soit le temps de la mémoire dans Memento, le temps du rêve dans Inception, ou encore la relativité du temps alliée à la physique quantique dans Interstellar. Le titre du film, le nom de plusieurs personnages et le lieu où se déroule la première scène sont une référence directe au carré Sator, un carré magique apparu dans l'Antiquité romaine, présent sur une fresque de Pompéi. En résumé, un agent de la CIA est laissé pour mort lors d'une opération contre des mafieux russes à Kiev en Ukraine. En fait, il s'agissait d'une stratégie pour le faire disparaître et le recruter au sein d'une organisation transnationale pour sauver le monde. Muni d'un seul mot, Tenet, est décidé à se battre pour empêcher une troisième guerre mondiale. En effet, le futur a trouvé une technologie afin d'inverser le temps et cherche à nous détruire, car nous sommes trop nuisibles et irresponsables. Notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. C'est donc un film palindrome. Un palindrome est un mot qu'on peut lire dans les deux sens. Le film aussi est pensé ainsi. Une fois qu'on l'a vu, il faudrait le revoir en commençant par la fin pour bien le comprendre. Comme Dunkerque, le scénario a été écrit par Nolan lui-même, pas par son frère comme souvent. Du coup, il est très conceptuel, parfois froid, tant dans le jeu des acteurs que dans l'image. L'image, ou les images impressionnantes et magnifiques certes, mais froides dans leur couleur et leur tonalité. Le seul, qui a un jeu assez humain, plus fantaisiste que les autres, c'est Robert Pattinson. John David Washington, fils de Denzel Washington, et Kenneth Branagh jouent très bien malgré tout. Cependant, les personnages parlent comme au cinéma, comme dans un scénario ou comme dans un animé, c'est-à-dire de façon très stéréotypée et grandiloquente. Il y a un petit côté « je me la pète quand je parle », si vous voyez ce que je veux dire. Dans ce film, certains diront que le film se noie dans son propre concept, qu'il est confus et exagérément compliqué. Et il est vrai qu'on est assez perdu. On se pose plein de questions tout au long du film. Les informations fusent, on a peur d'en perdre. Elles fusent très vite par rapport à notre réflexion plus lente. D'autres diront que Nolan continue d'explorer le temps et d'interroger le cinéma, qu'il nous invite à penser que l'image et notre intuition, qui sont très rapides et reconstituent sans cesse la réalité, ne vont pas aussi vite que notre réflexion plus lente. Il n'empêche que nous nous posons toutes et tous la question au cours du film. Comment ça marche, l'inversion du temps ?
No. done went back in my cell. Felt like hell. Fuck, I risked it. Pace yourself. How you living? Know you thrilling off of sinning. How I got my stripes and pendants back and out in the street. Run this wild, let it be. Rage is out, gotta eat. Not a vibe, run away with the sound. By the way, count it down by the days to myself. Know they look it with the moves. I'm juking off the juice. No, I'm juking. I be smooth and I lose it. Yeah, nah, nah. Outside, I think our options up. I'm a rocket, round the map, I had to line it up. I be swerving on the waves, it's like a line of us. Move in verse on my turf, I'm out of line. I put in work, I draw the line and cross it first. I need the time, I need the search. It's just like wanting, make it work. Skirt, skirt, in a verse. Skirt, skirt, round the land. Boeing jet, make it land. It's slow motion when I dance. In your eyes, I see your trance. I run away and then you prance. If I show the hideaway, will you hide out and let it blam? Ain't no time of fixing scams. I know.
Bien, merci Pablo pour cette magnifique chronique qui
ouais,
nous a fait
merci Pablo.
Qui nous a fait voyager.
Ouais. À travers le temps.
À travers le temps, à travers l'espace.
C'est ça.
Infini.
Et à travers l'univers de Nolan.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, je vous propose de continuer avec un petit morceau de musique.
Oui.
Hein, un petit morceau de Alice Cooper, Poison.
Sur Radio G.
Sur Radio G.
101.5. La radio qui fait le point.
Qui fait le point. malgré le poison, c'était quand même bien d'écouter ça un petit peu, un petit Alice Cooper, comme ça, c'était, ça faisait du bien aux oreilles. Donc, bah, Anaïs, tu vas nous présenter maintenant...
Une petite série.
Une petite série. Oh, allez, je te mets un petit jingle. Oh, allez, une petite pub.
Ouais. Oh là, attends, j'ai peur.
Y'a pas les crevettes, Anna.
Chanto Mata! ヌードルよりカレー飯。
イエー。
こっちもお湯を注ぐだけ。5分待ったら出来上がり。混ぜると無駄にうまくなる。すすらなくていいから食べさせやすい。
お
い
しい。
麺と飯どっちが好き？
麺。
ほらほらとにかくファーストバイト。何この感覚？
Je vous propose la traduction.
Ouais, vas-y.
C'est ça. Alors, dans cette pub, les questions de... Non, je rigole. Donc, ce soir, moi, j'ai choisi de vous parler de la nouvelle série, pas du tout japonaise, hein, une série américaine, non, de Ryan Murphy, donc, qui est producteur, réalisateur et scénariste de plein, plein de séries. Et en voici une énième qui s'appelle Ratched, et qui est pour moi un vrai, vrai coup de cœur. Et a priori partagé par Héloïse vu nos petits échanges juste avant l'émission, quoi. Pour situer un petit peu l'univers de Ryan Murphy, parce qu'il a fait plein de séries, je vous en cite quelques-unes. Peut-être que Seb, tu en connais certaines.
Peut-être, on va essayer.
Nip Tuck.
Oui.
Glee. Mais non, Glee, pas dans non, le même genre, non. Mais voilà. American Crime Story, American Horror Story.
Non, moi je connais American History X, mais...
Et The Politician, voilà, entre autres. Donc voilà, il est assez, il a fait énormément de séries. Et donc là, on retrouve la série Ratched. Dans cette série, Murphy convoque le personnage de Mildred, Ratched, que tu connais peut-être, puisqu'il s'agit de l'infirmière sadique du film multisque oscarisé de Milos Forman.
Et si je fais coucou ?
Voilà, exactement, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors, je ne l'ai pas forcément vu, pour être honnête, donc peut-être que tu pourras rebondir à ce que je vais dire.
Bah, si je rebondis à la manière du chef indien, ça va faire des dégâts.
Donc, Ryan Murphy nous entraîne dans un univers ultra-violent, comme il en a souvent l'habitude. Et là, on se retrouve dans un hôpital psychiatrique de Californie.
Là, c'est comme dans le film. Hein.
Voilà. Mais par contre, fin des années 40, la série débute en 1947, et je crois savoir que le film est un peu plus tard.
Un peu plus tardif, normalement, années 60, voilà. 70.
Alors, on va voir un petit peu pourquoi. Fin d'année des années 40, on voit que les troubles de la personnalité, la violence, l'homosexualité se soignent comment ? Eh bien, un coup de lobotomie et de trépanation, et avec des jets d'hémoglobine garantis. Donc voilà, pour vous situer un petit peu le décor, n'est-ce pas
hein ? C'est sympa, hein, ça donne envie déjà.
Ouais, tout à fait. Alors sur le papier, Ratched a été présenté comme le préquel donc de Vol au-dessus d'un nid de coucou, devant raconter les origines de la fameuse Mildred Ratched, la terrible infirmière en chef, interprétée à l'époque par Louise Fletcher dans le long métrage original. Finalement, après le visionnage des 8 épisodes de la série, donc qui compose la première saison en tout cas, force est de constater que le point de départ était surtout un nouvel artifice pour Ryan Murphy. En effet, on s'attendait peut-être à voir la célèbre infirmière dans l'hôpital où on a enfermé le personnage de Jack Nicholson, ou suivre ses aventures avant l'arrivée de Mac Murphy dans l'hôpital. Et en fait, il faut carrément oublier tout ça. La série débute en 47, soit plus de 10 ans avant la période du film multi-oscarisé. Et en fait, il n'y aura jamais de clin d'œil aux événements se déroulant dans le fameux film. Il est même particulièrement difficile de comprendre, a priori, le lien entre la série et le film original, du moins en tout cas dans les premiers instants. Donc plus de 40 ans après sa sortie, il est clair que le film n'était pas du tout féministe. Tu confirmes, Seb ?
Non, là, ça c'est clair.
Le viol y est même décrit comme une arme contre les femmes. Et bien évidemment, Ryan Murphy, je vais y arriver, se charge de le dénoncer à sa manière dans Ratched. Sans trop de surprise, on voit que Murphy a envie de prôner l'égalité des sexes, il valorise la diversité à la fois ethnique et sexuelle, mais surtout il souhaite mettre en avant les femmes dans une histoire qui ne fait pas que les dénigrer. Il s'amuse aussi toujours avec son style pop et coloré à déconstruire totalement le mythe de l'infirmière Ratched au fur et à mesure Ah, au fur et à mesure de l'avancée de cette première saison. Excusez-moi, c'est particulièrement difficile de parler avec le masque. Donc il y a des petits bugs. Donc ce qu'on comprend, ce que Murphy veut qu'on voit, c'est que finalement, on ne naît pas forcément monstre, mais bel et bien qu'on peut le devenir, au travers donc, du personnage de Ratched. Donc, au-delà de ses propos un peu féministes et des thématiques de prédilection du réalisateur, Ratched est bien évidemment un terrain de jeu foisonnant pour Murphy, avec des meurtres sanglants aux portes du gore, hein, son amour pour une violence sordide. Alors, je vous parle pas des bains bouillants dans lesquels on plonge les malades, et puis des quelques greffes de bras.
C'est des jacuzzis, c'est ça, c'est pour détendre.
Voilà, on voit qu'il y a évidemment quelque chose de qui est proche de American Horror Story au sein de la série. Et les plus amoureux de la série, donc anthologique, auront d'ailleurs sans doute la sensation de retrouver quelquefois l'atmosphère de la deuxième saison, Asylum, lorsqu'ils seront plongés dans les méandres de l'hôpital d'État de Lucia. On retrouve aussi dans la patte hein, de Murphy son amour des décors grandiloquents et assez élégants. Et les aficionados de son style ne seront donc pas démunis, et au contraire, ils devraient raffoler de l'aspect comique et coloré qu'il apporte à un scénario aussi sombre et macabre. Il y a beaucoup de points d'humour.
Il y a beaucoup de points d'humour. C'est-à-dire au moment où il découpe ou
On arrive à tourner ça de manière assez voilà. C'est le
jeu ma pauvre Lucette.
Voilà,
hein,
c'est ça. Quand même. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Ryan Murphy rend aussi surtout un hommage puissant à tout un pan de l'histoire hollywoodienne. À plusieurs reprises, il suit les traces du film noir et notamment des grands classiques de Hitchcock. On le retrouve dans la mise en scène et aussi dans la musique. On a une prédominance du vert qui rappelle Sueur froide. On a une atmosphère assez étrange dans le motel dans lequel vit Mildred Ratched, qui fait penser à Psychose. Mmh. Et les meurtres semblant des meurtres qui semblent aussi singer un peu le crime était presque parfait. Donc vraiment il y a des références. Il y a aussi, on peut voir des références à Shining, à Bonnie and Clyde. Donc voilà, c'est un délire, un thriller qui mêle l'horreur, le psychologique et le romantique à merveille.
Voilà. Ça a l'air très sympathique quand même. Hein. C'est pour passer un bon moment, pour un moment de détente.
Moi, j'adore. Personnellement, c'est un style qui me plaît beaucoup. Et puis, on retrouve au casting, je ne l'ai pas dit, je pense, l'actrice Sarah Paulson.
Non, tu ne l'avais
pas
dit.
Qui est un peu une actrice fétiche du réalisateur, puisqu'on la retrouve dans plusieurs séries, notamment dans les American Horror Story. Et elle a rendu une interview à un magazine où elle explique en fait qu'il y aurait sûrement plusieurs saisons. On va pas s'arrêter là, hein. Et que on va poursuivre en fait l'histoire de Mildred, peut-être, on sait jamais, jusqu'à arriver à la période de vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc elle évoquait 4 saisons. Donc on verra si on a bien les 4 saisons et si ça continue sur la même lancée.
Sur la même lancée, on décolle petit à petit et puis finalement le vol va se stabiliser au-dessus du nid de coucou.
C'est ça,
c'est joli.
Et comme je sais que Seb, tu as l'air d'adorer l'univers, je sens que tu vas tout de suite aller voir Ratched et puis
t'en auras peut-être
pas suffisamment.
Non.
Donc là, je te propose de regarder la saison 9 en plus de American Horror Story. C'est American Horror Story 1984 qui a démarré le 20 septembre sur une plateforme dont on ne citera pas le nom.
On a fait un film fixe.
Pour rappeler, si tu connais pas en fait cette série.
Non, tu connais pas.
Depuis 2011, en fait, les acteurs de cette série d'anthologie horrifique se réinventent à chaque saison. Ce sont les mêmes acteurs, mais dans des délires différents.
D'accord.
À l'asile, dans une maison fantôme, avec des
aliens. Ça peut être sympa, après tout.
Et là, en fait, dans la saison, donc cette saison 9, on les retrouve en fait dans un camp pour enfants où il y a eu un massacre. Et en fait, il y a des voilà. Et il y a quatre ou cinq animateurs de colo qui vont se retrouver là-bas.
C'est les animateurs, ils ont pas supporté les gamins, donc du coup, ils ont pété un câble.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai regardé que le premier épisode parce
D'accord.
que tu vois.
C'est à ce point-là.
Mais c'est aussi assez sanglant et on retrouve forcément l'univers de Murphy. Mmh. Et il y aura une saison 10.
Oui.
Voilà, et on sait pas trop sur quel sujet, il y a plein de Il y a plein de comment
de possibilités,
de rumeurs qui circulent sur Internet. Il aime bien faire un petit peu. Il publie de temps en temps Murphy des petites photos pour qu'on se fasse une idée de ce que ça sera.
D'accord.
Donc là, il y a des dents qui circulent.
Ah, il y a des dents. Il y a du rouge.
Ça te fait penser à quel, à quoi?
Un dentiste.
Non, on peut imaginer le vampire.
Oui,
le
aussi.
Le midi vampire réinventé.
Mais tu sais, le dentiste dans Marathon Man, c'est pas mal hein, non plus. Hein.
Donc voilà, je sens que je t'ai convaincue de regarder les séries de Ryan Murphy. Et c'est pas fini.
Et c'est pas fini.
Pour te convaincre encore plus, il a le projet d'adapter, en fait, de parler d'un célèbre tueur en série, le serial killer Jeffrey Dahmer, surnommé le cannibale de Milwaukee.
Super.
Voilà, il y travaille et il nous prévoit peut-être une série à ce sujet.
Attends, il y travaille dans quelle manière
Je pense qu'il cherche, il est en train d'inventer son scénario.
Il n'est pas en train de faire le cannibale.
Non. Bon, Jeffrey Dahmer, pour ceux qui ne connaissent pas, il est auteur de 17 meurtres, acte de cannibale et nécrophile. Voilà. Donc ça risque d'être très très sympa.
Ça va être sympa, ça va être détente. Voilà. Hein, c'est pour le soir.
Je m'arrête là, en Seb, ça te va hein?
Oui, ça va. C'est bien.
Je te rappelle quand même. Donc,
rappelle-nous
la série Ratched qui est disponible depuis mi-septembre.
D'accord, bien, voilà. Merci beaucoup.
Mais de rien.
On va découvrir ça avec impatience. Alors, pour remettre un peu de douceur, un peu de douceur, de gentillesse, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique.
T'as vu, ça ne me ressemble pas pourtant à ce genre de choses.
Un petit morceau de Bon Jovi, Living on a Prayer, sur Radio G, dans Bang Geek Mafia.
101.5.
La radio qui fait le point.
We'll be right back.
petit générique pour nous informer que nous allons entendre maintenant la chronique d'Héloïse.
Petite chronique jeux vidéo.
Chronique jeux vidéo. Et c'est parti.
Bonjour à tous, c'est Héloïse en direct de Nantes. Et aujourd'hui pour ma chronique jeux vidéo, je vais vous parler du jeu star de cette fin d'année. Il s'agit bien sûr de Fall Guys. Fall Guys Ultimate Knockout est un jeu vidéo multijoueur de type Battle Royale sorti le 4 août 2020, développé par Mediatonic et publié par Devolver Digital. Il est disponible sur PS4 et sur PC. Mais Fall Guys, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu fortement inspiré des jeux télévisés de courses d'obstacles comme Takashi's Castle, Total Wipeout ou Ninja Warrior. Dans le jeu, c'est 60 joueurs qui doivent surmonter des défis, le but étant d'être le dernier survivant pour décrocher la couronne de la victoire. Le joueur, il a le contrôle d'un espèce de haricot qui est muni de très longs bras et de petites jambes, sans aucune bouche mais avec des yeux. Et en fait, on peut le personnaliser de l'apparence comme on veut, les couleurs, les motifs de peau, les accessoires, les réactions. Et ces petits haricots, en fait, ils peuvent réaliser 4 actions de base, donc courir, sauter, plonger vers l'avant et attraper. Le principe de jeu repose sur la course d'obstacles, donc le joueur doit parvenir à son objectif en étant ralenti le moins possible par les obstacles sur le terrain ou par les autres joueurs. Dit comme ça, ça a l'air super simple, mais détrompez-vous, ça ne l'est pas du tout. Pour y avoir joué plusieurs heures, dont la plupart du temps à rager contre les autres joueurs, on se rend vite compte de la difficulté du jeu. Ce jeu, il a rapidement créé le buzz sur Twitch, la plateforme utilisée par beaucoup de streamers, et ça a rassemblé des grands noms du jeu vidéo qui ont performé avec des lives de plusieurs heures pour réussir à faire top 1. En termes de chiffres, dès le premier jour, le jeu se révèle être un succès commercial avec 1,5 million de joueurs en moins de 24 heures, occasionnant des problèmes de charge des serveurs. Au 26 août 2020, 3 semaines après la sortie du jeu, le studio annonce que le jeu s'est vendu à 7 millions d'exemplaires sur Steam et qu'il est le jeu le plus téléchargé sur PS Plus, le store de PlayStation, où le jeu était gratuit pour le premier mois. L'univers hyper coloré, personnalisable à souhait et fun du jeu donne réellement envie d'y jouer et j'ai fini par succomber à l'appel de la manette. Même si, je vous l'avoue, j'ai pas encore réussi à faire top 1 et c'est pas faute d'essayer. J'en parle également aujourd'hui car la saison 2 de Fall Guys, elle sort demain le 8 octobre. Cette nouvelle saison, elle s'appelle Night Fever et sans surprise, elle se fera autour de différents obstacles connectés au monde médiéval, le tout avec des nouveaux skins de mages, de sorcières et de chevaliers. J'ai hâte. Voilà pour les infos, le jeu est dispo sur PC, PS4 et bientôt sur d'autres consoles, dont la Switch. C'était Héloïse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.
Quand tu donnes dans ton panier du fromage, quand tu donnes dans ton panier du fromage de chez Morel.
Qu'as-tu donc dans ton panier, Seb ?
Eh bien, deux bandes dessinées, vous avez bien compris, maintenant on va parler de bandes dessinées. Alors, je vais commencer par la moins sympa, parce qu'après tout, on était dans le gore tout à l'heure. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de gentillesse avec un jeu vidéo. Merci Héloïse et
ouais,
coucou.
Ouais, super.
Hein, super. Là, je vais vous parler d'une bande dessinée qui m'a permis de redécouvrir quand même une œuvre littéraire qui est assez importante, de Roland Dorgelès. Donc, vous doutez bien, encore une fois, on va parler BD historique. Les Croix de Bois, d'une adaptation de J.D. Morvan et de Persio, aux éditions Albin Michel. Alors, voilà ce que l'on nous dit en quatrième de couverture. Il venait de l'arrière, il venait des villes. La veille encore, il marchait dans les rues. Il voyait des femmes, des tramways, des boutiques. Hier encore, il vivait comme des hommes. Et nous les examinions, émerveillés, envieux, comme des voyageurs débarquant de des pays fabuleux. Et eux aussi nous dévisageaient, comme s'ils étaient tombés chez les sauvages. Journaliste et engagé volontaire, Roland Dorgelès s'attaque au récit de la guerre à son retour des tranchées. Acclamé par la critique et le public, Les Croix de Bois reçut le prix Femina en 1919. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, finalement c'est une adaptation, hein, c'est du tardi. Eh bien non, pas du tout. On a une adaptation qui graphiquement est d'une toute beauté et qui mêle étroitement finalement le personnage qu'est Roland Dorgelès et son personnage de fictif qu'il met en action dans son roman Les Croix de Bois. Et donc les deux récits se croisent et on a deux styles graphiques aussi qui nous permettent d'identifier finalement lorsque l'on parle de la vraie vie de Roland Dorgelès et lorsque l'on parle justement du personnage qui est je me souviens plus du nom, c'est Dormantin, ça doit être quelque chose comme ça. Et donc du coup on a là, ça y est, on est plongé dans cette horreur, dans cette boucherie qui a eu lieu finalement il y a plus d'un siècle maintenant, et qui a jeté toute une jeunesse dans l'horreur de ces tranchées, de cette guerre des tranchées. Et donc ça permet de redécouvrir ce grand classique, Les Croix de Bois, qui a été aussi adapté au cinéma, hein, une adaptation qui a été faite aussi dans les années 30, aussi en même temps, avec de vrais anciens combattants. Donc du coup, on a quand même un gage de qualité. Et là, du coup, on a encore une œuvre qui est super originale, qui est prenante, qui vous prend aux tripes et qui vous emmène dans le plus profond, finalement, de l'horreur de cette guerre et de ses conséquences aussi en même temps.
D'accord.
Donc voilà, superbe bande dessinée à conseiller pour justement les cadeaux de Noël puisque ça approche. Donc c'est une très bonne découverte et c'est exceptionnel et graphiquement, alors là c'est un vrai pur bonheur.
La première de couverture avec ce rouge vif.
Oui.
Ouais, elle percute quoi.
Elle est percutante, elle interpelle et on voit ce pauvre soldat complètement carapaté, recroquevillé sur lui-même, finalement dans cette horreur avec les croix de bois derrière. Alors maintenant, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus gai,
plus léger.
Aux éditions Bambou, Vagabondage et contrées légendaires, Traquenard et Faribole par Benoît Dupeloux. Une aventure animalière pleine d'action et de magie. Il était une fois un roi dépressif. Il était une fois un roi dépressif qui s'était laissé séduire par une sorcière avide de pouvoir. Il était une fois deux petits malfrats, Traquenard et Faribole, voleurs de bas étage, roublards et peu scrupuleux, qui étaient loin d'imaginer que leur chemin allait croiser celui de la princesse Felicity, la fille unique du roi. Il était une fois une princesse dont l'âme était prisonnière de perfidie, la sorcière. Il était une fois un conte dont Charles Perrault ou les frères Grimm auraient aimé écrire l'histoire et que l'on va vous raconter.
Là, pour le coup, ça me fait penser à De Cap et De Croc, pas forcément, mais c'est les personnages en première de couverture aussi.
Graphiquement, oui. Alors là, c'est on a une œuvre qui est magnifique, hein, très colorée. Bien sûr, c'est toujours cette. Moi, ce que j'aime bien aussi en même temps, c'est cet emploi de zoomorphe des personnages. Et du coup, on a des traits de caractère qui correspondent un petit peu aux personnages qui sont représentés par des animaux. Et on a une histoire qui nous plonge au cœur du Moyen-Âge, ou plutôt de l'époque média fantastique, finalement, puisqu'on a des contes, on a des fées. Et du coup, ça se lit très, très bien, très fort. C'est une histoire en un seul, en one shot, comme on peut dire. Mais à la fin, ce que j'apprécie grandement, c'est on nous dit, mais ceci est une autre histoire. Donc ça laisse la possibilité à avoir une suite, mais qui sera complètement indépendante. Et dans cette édition, on a un cahier graphique qui nous permet justement d'avoir des recherches et des personnages, justement une présentation de ces personnages. Une excellente histoire, un excellent conte qui se lit très bien et que l'on peut très bien lire aussi auprès de ses enfants sans aucun problème.
Ok.
Donc je vous redonne les deux titres, Traquenard et Faribole par Benoît Dupeloux aux éditions Bambou Édition, et puis de J.D. Morvan et Persio, Les Croix de Bois de Roland Dorgelès.
Merci Seb.
De rien. Alors, la bande dessinée, on va continuer après un petit morceau de musique. Alors, je sais que Sébastien nous a demandé un petit morceau de musique.
Oui, exactement. Un petit morceau d'ACDC.
ACDC, un petit shot in the dark. On va attendre juste que ça commence à charger. Et puis, on va écouter ça sur Radio G dans Bang Geek Mafia.
Sur 101.5 FM.
C'est parti.
J'ai fait une petite variante.
Yeah, around and back to track. なあ、かかし先生に聞いたんだけどさ、エリート人間って喋れるんだろ？
何言ってんだ、赤丸だって時期だよね。
ふーん、ほんとかな。だってパックンなんかさ、生後4ヶ月でカカシ先生の名前言えたらしいぜ。
On va continuer avec de la bande dessinée.
Tout à fait.
Mais pas forcément du manga, mais vraiment de la BD. Et j'ai pensé à toi Seb et aux auditeurs, parce que qui
aime quand même
la BD historique. J'ai ramené ce soir l'histoire des tirailleurs sénégalais de Frédéric Chabot et Julien Monnier. Alors... c'est une docu-BD proposée par l'éditeur Petit à Petit, que moi j'apprécie énormément, puisque à chaque fois on a une partie BD et une partie documentée, donc j'apprends souvent plein de choses. Donc là on est alors que l'Europe s'embrase sous la violence de la Première Guerre mondiale, on est raccord, Seb, ce soir.
Tout à fait.
La France décide de faire appel à ses colonies africaines pour contribuer à l'effort de guerre. Le jeune paysan sénégalais Yacouba Ndo se retrouve bien vite, tout comme de nombreux autres Africains, enrôlé de force et projeté en première ligne de terribles Fian Assou. Dans une existence glaciale, rythmée par les chutes d'obus, Yacouba va également affronter les affres du racisme des autres soldats et de ses supérieurs. Donc voilà, on a vraiment cette histoire donc de Yacouba, jeune sénégalais qui participera à la Première Guerre mondiale. Cette bande dessinée aborde aussi bien la dureté du dépaysement, quoi. Les relations nouées entre poilus et tirailleurs sénégalais, les batailles des tranchées, la présence des combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine. Et donc voilà, ce qu'on salue, c'est vraiment ces pages documentaires qui permettent de renseigner un peu plus sur cette période et cette histoire des tirailleurs.
Et cette histoire des tirailleurs, c'est bien aussi de la mettre en avant, parce que c'est une histoire qui est généralement méconnue, parce que ces pauvres personnes, quand même, se sont retrouvées dans des conditions de lutte qui étaient plus que déplorables.
Oui, oui, oui. Donc voilà, donc c'est donc l'histoire des tirailleurs sénégalais des éditions Petit à Petit. Et je voulais terminer avec une BD qui s'appelle From Black to White. Là, on suit le personnage de Curtis. Curtis qui passe devant un magasin de téléviseurs aux États-Unis et qui s'arrête net. Sur les écrans, des corps bougent d'une manière incroyable, et surtout un en particulier. C'est celui de Michael Jackson. Ce jour de 1964 à Harlem marquera un tournant dans la vie du jeune garçon. Fasciné par le roi de la pop, il n'aura de cesse de poursuivre son rêve, danser. Mais dans une société sous la domination blanche, il lui faudra s'imposer par son talent, tandis qu'autour de lui, la campagne antiraciale bat son plein. Donc c'est Stéphane Louis qui met en parallèle le destin d'un artiste de hip-hop, avec en arrière-plan tout le contexte de tout un pan de combat pour les droits des minorités noires. Donc finalement, en fait, cette BD, c'est davantage un panorama des événements qui ont étayé une période riche de leur émancipation que véritable réflexion sociale et politique. Ça reste assez léger et sans véritable engagement, mais voilà, on a vraiment ce panorama des événements qui est à souligner. Le héros est assez sympathique, même s'il est peu charismatique, et on se laisse glisser sur l'actualité, même si elle est toujours en retrait. Donc voilà, une BD quand même à souligner, et un graphisme qui est assez intéressant aussi.
D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler les titres de ces deux bandes dessinées?
Alors, From Black to White de Louis et Clément Balou, édité chez Stenkiss, si je prononce bien. Et l'histoire des tirailleurs sénégalais de Frédéric Chabot et Julien Monnier chez Petit à Petit.
Eh bien, merci. Et moi, je vous propose de continuer encore avec un petit morceau de musique. Un morceau de musique. Oh, je bafouille, j'en peux plus.
Le masque
de ZZ Top, Give Me All Your Lovin' sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le point.
Thank you.
bien, c'est sur ZZ Top qu'on va se dire au revoir.
Ouais,
malheureusement.
Au revoir Anaïs,
au revoir les auditeurs.
Et puis à bientôt.
Et bien à la semaine prochaine.
Pour une nouvelle émission.
Sur Radio G.
5.5.
La radio qui fait le point. Et puis on vous souhaite une bonne soirée. Allez.
Salut.